Oui, même 30 fois glorieux, puisque nous allons parler effectivement de la période des 30 glorieuses avec notre invité, le rédacteur en chef adjoint de la revue Le Festin. Mathieu Marsan, bonjour.
Bonjour.
Soyez le bienvenu, vous êtes avec nous jusqu'à 13h. Et avant 13h, Michel Cardoz, comme tous les jours, il nous racontera d'une certaine manière l'invention des caves coopératives en Gironde. Et puis nous ferons escale aussi à Lugon, dans un incroyable jardin, le jardin du Fond de l'Or, classé jardin remarquable et ouvert au public par ses propriétaires.
France Bleu Gironde, midi.
Dans Place des Grands Hommes, une évocation d'un âge d'or, une période de croissance exceptionnelle, la période des 30 Glorieuses. La revue Le Festin, la revue des patrimoines en Nouvelle-Aquitaine, a eu la très bonne idée, pour son dernier numéro, de nous rafraîchir la mémoire et d'explorer cette période pour nous expliquer ce qui a changé dans nos vies en termes de confort, de design, d'architecture, de mode, de photographie. Quel a été l'impact de cette période, ici, en Gironde, et au-delà? Le saviez-vous, c'est une bordelaise qui va changer la couleur des voitures Dauphine de Renault à cette période. C'est à ce moment que commencent les grands chantiers de reconstruction de Bordeaux. C'est en 1962 que débute le creusement du lac de Bordeaux. Et c'est en 1973, dans la confiance, que l'usine Ford de Blanquefort sort de terre. Quelques exemples de ce monde d'espoir, de cette période unique qui va bouleverser le quotidien et s'ancrer durablement dans les mémoires. Pour en parler avec nous, je vous le rappelle, donc le rédacteur en chef adjoint de la revue, Mathieu Marsan. Alors peut-être pour commencer, un peu d'histoire.
Bien sûr, oui.
Un peu d'histoire et un rappel pour bien comprendre ce qu'est cette période des 30 Glorieuses.
Alors, les 30 Glorieuses, tout d'abord, c'est un terme qui a été inventé par Jean Fourassier, qui est un économiste français, qui publie en 1979 un ouvrage qui s'appelle « Les 30 Glorieuses, la révolution invisible ». Et c'est donc ces 30 Glorieuses qu'il va définir, elles vont de la fin de la Seconde Guerre mondiale jusqu'au premier choc pétrolier de 1973. Et c'est effectivement une période extrêmement riche, vous l'avez évoqué, un essor démographique important, le fameux baby boom, le plein d'emploi qui revient après la Seconde Guerre mondiale, la consommation de masse aussi qui s'impose et qui s'implante durablement, le tout automobile qui arrive, on est vraiment sur une phase de mutation extrêmement forte où la France cherche surtout à s'imposer comme un pays important sur la scène internationale. Et il y aura un grand nombre de mutations, de réinventions durant cette période dans la société française, mais aussi dans la pratique des beaux-arts, de l'architecture, de la photo, du design.
Et encore aujourd'hui, donc, ces traces existent, de ces fameuses 30 Glorieuses. Il n'existe aucune autre période semblable aux 30 Glorieuses.
Non, c'est vraiment une période qui est assez, alors qui est propre à la France. On ne retrouve pas ces 30 années-là dans d'autres pays en Europe ou de manière un peu plus courte sinon. C'est vraiment propre à la France et on retrouve beaucoup de traces effectivement encore aujourd'hui. Et ça crée même aujourd'hui c'est une référence dans beaucoup de domaines, la production qui a été développée durant ces 30 Glorieuses, je pense notamment en architecture ou même dans la pratique de la peinture ou de la photo aussi également.
Voilà. Et des générations qui ont suivi, hein, qui nourrissent toujours l'espoir qu'un jour il y aura à nouveau ces fameuses 30 Glorieuses. Hein. Il y a une espèce de mélancolie, de nostalgie de cette période.
Oui, il y a une vraie nostalgie et puis surtout après ces 30 Glorieuses, on a eu droit aux 30 Piteuses, qui sont nommées ainsi, donc les 30 années qui suivent les années 70, où on a un contexte complètement différent, le chômage, une récession économique, des artistes ou des architectes qui vont s'opposer aux préceptes qui étaient mis en place durant les 30 Glorieuses, donc on s'y oppose vraiment pleinement. Alors on aimerait bien avoir effectivement 30 nouvelles Glorieuses qui arrivent là, à partir du début du XXe siècle.
Voilà,
là, c'est l'avenir.
La fin des piteuses. Hein.
Voilà, la fin des piteuses, en tout cas.
La fin des piteuses. Mathieu Marsan, vous restez avec nous. Hein. Donc, on va feuilleter ensemble et avec ceux et celles qui nous écoutent, hein, peut-être de la génération des 30 Glorieuses, la revue Le Festin. Donc, comment ces 30 Glorieuses ont influencé, et influencé durablement, comme je le disais, parce que c'est encore dans notre paysage et dans nos mémoires, et parfois aussi dans nos maisons. Hein, design, architecture, société, mode, beaux-arts, photographie. La période 1950-1970, évoquée avec l'invité de France Bleu Gironde aujourd'hui jusqu'à 13h. Évocation avec l'invité de France Bleu Gironde, Mathieu Marsan, le rédacteur en chef de la revue Le Festin, rédacteur en chef adjoint, la revue de la Nouvelle-Aquitaine, et en termes de patrimoine en particulier. Eh bien, nous parlons de ces 30 Glorieuses, c'est-à-dire la période, on va dire, 1946-1973, à peu près, 75. Donc, c'est une période de changement complet en termes de mœurs, en termes d'architecture, de design, de société, de mode, de photographie. Et alors, ce qui est vraiment important, c'est donc l'architecture, parce que là, le paysage a été transformé durant cette période-là. Et aujourd'hui, on a du mal à considérer que ces transformations architecturales et les bâtiments qui sont restés appartiennent au patrimoine.
Oui, c'est vrai que c'est un gros enjeu avec ce patrimoine, donc post-Seconde Guerre mondiale. La France, après la Seconde Guerre mondiale, c'est un pays à reconstruire, qui est pleinement à reconstruire. Deux tiers du parc immobilier français était insalubre, soit à cause des dégâts causés par la guerre, soit avant la Seconde Guerre mondiale, le parc était déjà dans un état lamentable. Donc il faut tout reconstruire. Et les constructions qui seront réalisées, dans toute la Nouvelle-Aquitaine, et c'est le cas également à Bordeaux et en Gironde, ça va être un parti pris moderne, des matériaux modernes, et en prime le béton armé, qui sera utilisé à grande échelle pour construire souvent des grands ensembles dans les quartiers périphériques. Si on prend l'exemple de Bordeaux, on retrouve des grands ensembles.
Alors justement, pour ceux et celles qui nous écoutent, donc on va donner des lieux, qui sont des lieux emblématiques de cette période-là. La caserne, par exemple, sur la rive droite, où nous trouvons la caserne de la Benauge, ça c'est typiquement les Trente Glorieuses.
C'est typique des Trente Glorieuses. Ce bâtiment, il est construit par Claude Ferré, qui est un architecte bordelais, qui est aussi à l'origine de la reconstruction de Royan en Charente-Maritime.
Royan qui est symptomatique de ces Trente Glorieuses.
Vraiment, Royan, c'est une vitrine de la reconstruction en France, une vitrine de la modernité. Et Claude Ferré, donc, il reprend les principes qu'il met en place à Royan, il les applique à Bordeaux, et il réalise ce bâtiment qui est extrêmement moderne en face d'une façade qui est plus que classique, qui est la façade qui est connue, la façade de la rive gauche de Bordeaux. Et ce bâtiment, il est sur pilotis, il est en béton armé, il est blanc. On retrouve des jeux entre des pleins et le vide, des jeux entre l'extérieur et l'intérieur, des cages d'escalier qui sont placées à l'arrière, qui sont clairement visibles. On ne cherche pas à cacher les espaces secondaires. Un escalier, c'est à pas être mis en avant. Le mouvement moderne le met en avant. On retrouve de la couleur, mine de rien, on trouve du rouge et du blanc. On a vraiment une réflexion globale avec des grands noms. Typiquement, les panneaux que l'on retrouve sur les façades, ce sont des panneaux qui proviennent des ateliers Jean Prouvé.
Mathieu Marsan, quels sont les autres lieux que vous avez identifiés, qui appartiennent à ces 30 Glorieuses?
Alors à Bordeaux, on retrouve essentiellement des grands ensembles. On a le Grand Parc, évidemment, qui est construit à partir de 1955 et qui va s'achever en 1970, qui est vraiment un quartier à très grande échelle qui est mis en place. 4000 logements qui sont réalisés, des équipements aussi pour la population, une salle des fêtes, donc qui a d'ailleurs réouvert il y a peu au mois de juin, une piscine, une bibliothèque, un centre commercial, vraiment presque une ville dans la ville qui peut vivre toute seule. Mais je pense aussi à la Benauge, où on retrouve des quartiers tout entiers qui sont conçus, et également à Bacalan aussi. Donc le Festin est basé à Bacalan, donc on est proche de ce patrimoine-là, avec la cité Carrier par exemple, et puis également un édifice qui a été détruit, parce que c'est aussi les aléas du patrimoine des Trente Glorieuses. Donc des édifices qui sont construits durant les années 50 ou 60 et qui disparaissent à la fin du XXe siècle. La Cité Lumineuse, qui était une grande barre d'immeubles presque en dessous du pont d'Aquitaine, qui a été détruite à la fin des années 80.
Ce qui est paradoxal, c'est que cette période des Trente Glorieuses, c'est une période dite heureuse, de plein emploi, de croissance, d'amélioration de la vie de chacun. Mais en ce qui concerne le patrimoine aujourd'hui, alors autant on trouve que tout ce qui s'est passé durant cette période, c'était assez formidable d'un point de vue social, même pourquoi pas de la mode, du design et autres. Mais pour l'architecture, vraiment, on n'a toujours pas digéré.
Oui, parce qu'on sort des canons traditionnels. Quand on parle de patrimoine, on est habitué à voir des édifices en pierre, des châteaux, des hôtels particuliers. À Bordeaux, évidemment, du style classique ou néoclassique. Et quand on se confronte à du patrimoine qui est en béton, qui souvent a mal vieilli, si on prend les grands ensembles, en 1950 ou 60, c'est synonyme de modernité pour des familles qui vivaient dans des taudis. Et elles passent de taudis avec un appartement, avec l'eau courante, avec un frigo, avec l'électricité. Enfin, il y a un bond énorme. Sauf que ce patrimoine-là, malheureusement, a mal été entretenu ou peu entretenu, avec une image négative que l'on connaît encore aujourd'hui. Et dans l'esprit du public, un édifice souvent construit en béton à cette époque-là, aura une connotation très négative. Mmh. Donc c'est aussi l'enjeu du numéro du Festin de rebasculer un peu cette vision-là et de montrer que ce patrimoine-là, il est intéressant. Et en tout cas, nous, on s'y intéresse.
Voilà. Et donc, il y a un article, entre autres, sur le Grand Parc. Il y a un article sur Ferré, sur lequel on va revenir donc dans un instant avec vous, Mathieu Marsan, invité de France Bleu Gironde, dans Place des Grands Hommes. Nous évoquons le patrimoine des Trente Glorieuses à l'occasion de la sortie de la revue Le Festin numéro 107, consacrée donc à cette période dans des domaines très différents comme le design, l'architecture, la société, la mode, la photographie ou encore les beaux-arts. Et on y apprend énormément de choses. Il y a une très astucieuse chronologie. Vous allez vraiment vous régaler parce que là, c'est la mémoire qui s'ouvre dans l'occasion d'y revenir avec vous. Mathieu Marsan, vous êtes l'invité de France Bleu Gironde, je le rappelle, rédacteur en chef adjoint de cette revue. Vous avez évoqué un architecte il y a de cela quelques instants. Tout le monde ne le connaît pas, donc on va peut-être faire sa présentation. Vous avez parlé de Claude Ferré, qui est vraiment donc l'architecte emblématique de ces 30 Glorieuses, et d'ailleurs c'est une dynastie puisque son fils, lui aussi, est architecte et on lui doit un certain nombre de réalisations ici à Bordeaux.
Tout à fait, donc son fils s'appelle Pierre Ferré, et la famille Ferré est une grande famille d'architectes sur 4 générations. Pierre Ferré a une fille, Venezia, avec qui il travaille, donc le relais est passé. Pierre Ferré, c'est effectivement l'invité de ce numéro, donc dédié aux 30 Glorieuses du Festin. On a voulu rencontrer et faire l'interview de Pierre Ferré, car il a la particularité d'avoir un père qui a réalisé les bâtiments les plus emblématiques de cette période, et aujourd'hui, Pierre Ferré se voit chargé de leur restauration. Et c'est là où c'est intéressant de voir comment un architecte contemporain se confronte à un patrimoine qui est marqué, qui est identifié 30 Glorieuses, et comment il va le restaurer, le reconvertir éventuellement, tout en respectant le parti pris d'origine, qui plus est, là, c'est son père. Donc il ne va pas dénaturer le bâtiment, évidemment.
Alors pour être concret, donnons quelques exemples à celles qui nous écoutent. Par exemple, le parking Victor Hugo, hein, en plein cœur de Bordeaux, ou encore la piscine Galin. Ben là, ce sont des ouvrages sur lesquels travaille le fils de Claude Ferré.
Tout à fait. Donc Pierre Ferré travaille sur ces projets. Alors ce sont deux réalisations qui ne sont pas de son père. Hein. Le Palais des Sports est dû à Jean Dorian.
Mais qui sont emblématiques quand même.
Qui sont emblématiques des Trente Glorieuses. Et effectivement, ce Palais des Sports... Il est construit en 1959, achevé en 66. Typiquement, un projet d'une telle ampleur aujourd'hui ne pourrait pas voir le jour. On est en plein centre historique de Bordeaux, dans le secteur sauvegardé. Fin années 50, on détruit du bâti ancien, on impose presque ce parking avec ce palais des sports, qui tombait pas un peu en ruine, mais qui était peut-être réadapté au fur et à mesure des années, qui correspondait plus au parti pris d'origine. Et donc, il a été chargé, il y a quelques années, de restaurer, de réhabiliter cet espace, avec une vocation sportive, mais aussi dédiée au spectacle. Et le résultat, il est plutôt probant
aujourd'hui.
C'est
pas tout à fait terminé.
En partie, voilà, c'est achevé.
Il y a la partie cour Victor Hugo qui n'est pas tout à fait achevée.
Voilà, le côté parking est en travaux encore à l'heure actuelle, mais le palais des sports en lui-même est bien achevé.
Et côté parking, n'oubliez pas de lever le nez parce qu'il y a cette fameuse voiture anglaise
que l'on retrouve,
qui risque de chuter comme ça.
Voilà, que tous les touristes prennent en photo, c'est effectivement le lieu à voir. Et pour la piscine Galin, c'est le même constat, une architecture des Trente Glorieuses qui a été évidemment bien utilisée, qui comporte aussi beaucoup d'amiante parce que c'est un des mots des Trente Glorieuses de l'époque. C'est vraiment l'utilisation de l'amiante, donc il va être réhabilité et aussi adapté aux besoins de l'époque, c'est-à-dire qu'une piscine des années 70 ne correspond plus peut-être aux envies des nageurs, ou en tout cas des nageurs du 21e siècle. Donc un gros travail de la part de l'atelier Ferré sur les équipements sportifs, d'ailleurs c'est la spécialité de l'agence.
Voilà, si vous voulez savoir plus, hein, l'article est complet, tout à fait passionnant. Un mot à propos des touristes qui viennent découvrir Bordeaux. Ils ont le circuit classique, hein, ville d'histoire, ville de patrimoine, mais est-ce que ce patrimoine des Trente Glorieuses est intégré? Est-ce qu'il y a des gens qui viennent en disant moi j'aimerais bien découvrir la période de la reconstruction de Bordeaux, donc toute la période de Chaban-Delmas en l'occurrence?
Oui, c'est le règne de Chaban-Delmas, hein, c'est peu mis en avant à l'heure actuelle, ça l'est quand même tout de même. Enfin, il suffit de regarder le programme des Journées du Patrimoine pour voir que le patrimoine des Trente Glorieuses est présent, on peut le visiter, mais à ce jour, il n'existe pas forcément d'offres dédiées à la reconstruction à Bordeaux. Mais on est sur une niche, mais une niche qui se développe. Et de plus en plus de visiteurs vont voir la caserne des pompiers qu'on a évoquée tout à l'heure, la régie du gaz qu'on retrouve dans le centre-ville de Bordeaux,
qui est devenue le Mama Shelter.
On est sur une architecture plus du XXe siècle qui tend à gagner en visibilité et trouver ses visiteurs.
D'où l'intérêt de cette revue dans laquelle vous vous plongerez. Mathieu Marsan, vous restez avec nous sur France Bleu Gironde jusqu'à 13h. Dans quelques instants, nous allons quitter les 30 Glorieuses et nous allons aller dans un jardin à Lugon, voilà, qui fait partie aussi du patrimoine d'une certaine manière. C'est un jardin qui a poussé grâce à l'amour de ses propriétaires et nous y serons en compagnie de José Ruiz. Nous parlons à l'occasion de la sortie du nouveau numéro du Festin, la revue des patrimoines en Nouvelle-Aquitaine, et à la veille aussi des journées du patrimoine, et bien de cette période des 30 Glorieuses qui a marqué toute une génération et qui marque encore, puisqu'il y a des bâtiments qui sont encore dans notre paysage, il y a des choses qui ont influencé notre mode de vie. Donc c'est dans tous les domaines, design, architecture, société, beaux-arts, mode et photographie. Alors en Gironde et aussi en Nouvelle-Aquitaine, jusqu'à Royan, qui est, comme nous l'a dit notre invité, une vitrine de cette période. Notre invité Mathieu Marsan, donc le rédacteur en chef adjoint de la revue. Est-ce que, en ce qui concerne les jardins et des choses qui sont typiques de cette époque des Trente Glorieuses, est-ce qu'on s'est intéressé aux jardins, à la verdure, aux espaces verts?
Alors, on retrouve alors pas des jardins spécifiques comme on peut l'entendre au 19e siècle, mais on voit que la place de l'espace vert est prépondérante dans la réflexion à la qui prédomine la création des grands ensembles. On essaye d'avoir ces fameuses taches vertes que l'on retrouve, pour citer Le Corbusier, qui crée cette notion de taches vertes. On essaye d'avoir de l'espace vert dans des espaces qui sont quand même très bétonnés. Donc on essaie de créer des respirations. On les retrouve souvent dans ces grands aspects-là. Ce qu'on retrouve également, ce qu'on a mis en avant dans le numéro, qui est un cas un peu unique, on est dans les Landes, on n'est plus en Gironde, mais c'est un parc, pour le coup, paysager, à Dax, le parc du Sahara, où on retrouve une maison typique des années 50, qui a été l'architecte qui s'appelle René Guichemer, a fortement été influencé par les grands architectes américains comme Frank Lloyd Wright, et on retrouve une maison qui est extraordinaire, un des chefs-d'œuvre de l'architecture moderne, mais je pense dans la région, qui est perdue au milieu d'un parc qui est vraiment fantastique.
Voilà, vous la retrouverez dans le magazine. Pourquoi je vous parle de jardin ? Parce que justement, depuis le début de la semaine, nous sommes dans un jardin qui n'a rien à voir avec les 30 Glorieuses, mais qui est un jardin glorieux. C'est le jardin du Fond de l'Or, 7000 mètres carrés. On est à Lugon, entre Saint-André-de-Cubzac et Libourne. Et Jacques Lubet et son épouse Babette s'en occupent depuis maintenant près de 30 ans. Donc nous poursuivons cette visite au rythme de la passion avec José Ruiz.
Il y a toujours de l'eau, hein. Toujours.
Oui, c'est la source. Alors, que vous avez, votre source à vous.
Moi, lorsque j'ai vu le... Oui, c'est une source qui était déjà équipée à l'époque, je suis déjà arrivé, il y avait déjà un abreuvoir, un lavoir. Ils ont fait une petite retenue d'eau. Donc là, il y a de ça 70 ans, 80, les gens devaient faire nettoyer leur linge à cet endroit-là.
C'est idéal pour
vous. Ah oui, ça c'est idéal pour un jardin. De toute façon, les beaux jardins, moi je visitais beaucoup de jardins, les beaux jardins ont ces conditions-là. Et souvent, c'est bien souvent pentu et ils ont de l'humidité. Ah, regardez, ça c'est cette nuit. C'est une grosse branche, vous allez la voir, qui s'est cassée de frêne comme ça.
Avec
le vent. Oui. Mais le frêne, c'est un bois très cassant. Alors ici, il y a des... Ici, vous voyez, voilà, c'est Numularia aurea. Vous voyez, ça, c'est des plantes qui aiment l'humidité. Alors, les ostas, les canards... Donc... Et les ostas, par contre, ça nécessite d'avoir 2 mètres du granulé pour les escargots et les loches. Bon, il n'est pas toxique, le granulé, quand même, maintenant, pour les insectes, pour les animaux, comme les hérissons. Donc, c'est du ferramol, ce qu'on appelle, entre autres. Donc, il faut en mettre dès le début de la pousse, et après, un peu de temps en temps, surtout lorsqu'il y a des temps pluvieux.
Alors, où sommes-nous, là ?
Si on arrive, on domine le nouveau jardin, le jardin qui a été fait il y a 16 ans, à peu près. Donc, on voit déjà les arbres qui... Et il y a une grosse évolution, parce que j'ai vu le jardin vient de paraître sur la vue des plus beaux jardins. C'est des photos qui avaient été prises il y a 4 ans. Et lorsque je vois les photos qu'il y a il y a 4 ans et actuellement...
Vous n'en revenez pas.
Ça a poussé, c'est impressionnant, comme ça a poussé. Donc il n'y a pas la recherche de végétaux rares, mais il y a quelques-uns qui sont pas, qu'on ne voit pas souvent. Celui que vous voyez, le premier, c'est Hyménoptéris henri. C'est un arbre originaire de Birmanie ou du Myanmar maintenant. C'est un arbre qui fera une floraison blanche. Si j'ai de la chance, peut-être je verrai fleurir.
Mais parce que là, vous avez des essences finalement du monde entier. Hein. Vous avez parlé d'Amérique, vous parlez de l'Asie. Ouais. Et toutes ces essences s'accommodent de à la fois ce terroir et votre manière de...
Il y a certains végétaux, surtout ceux qui ne sont pas persistants, c'est-à-dire qui perdent des feuillages, ceux-là, ils acceptent même de différents pays, ils acceptent notre climat. Vous voyez le cas d'un baobab, vous ne pourrez jamais le mettre, parce qu'un baobab, il nécessite d'avoir de la chaleur constamment. Donc il faudrait qu'il se développe beaucoup pour pouvoir résister. Mais comme il ne peut pas se développer, donc on ne pourra jamais l'avoir.
Voilà, un jardin à découvrir. Alors, ce qui est formidable, c'est que ce jardin du Fond de l'Or que nous visitons dans Pierre et Nature grâce à José Ruiz, eh bien, c'est un jardin qui se visite. Vous avez tous les liens sur France Bleu Gironde, sur francebleu.fr. Alors, nous évoquions les jardins il y a de ça quelques instants avec Mathieu Marsan. Je vous rappelle que Mathieu Marsan est le rédacteur en chef adjoint de la revue Le Festin, qui consacre donc son dernier numéro à cette période 1950-1970. Période qu'on appelle les 30 Glorieuses, période de croissance, de transformation. Bordeaux a été totalement transformé. Alors vous, dans les lieux que vous aimez bien, forcément, votre cœur va un peu à Royan, hein, c'est ça, parce que vous êtes installé à Bordeaux depuis maintenant combien de temps ?
Oui, ça fait 4-5 ans.
4-5 ans. Mais avant, vous étiez à Royan.
Voilà, avant, je travaillais effectivement à Royan. Et c'est vrai que cette ville de Royan, on l'a évoqué, c'est une vraie vitrine de la modernité. Mais c'est même une leçon d'architecture, dans quels que soient les quartiers dans lesquels on se balade, qu'on découvre une maison individuelle, des édifices emblématiques comme le marché qui a une forme de parachute ouvert, le palais des congrès, le front de mer, des édifices aussi qui ont été détruits. Hein, je l'évoquais au tout début de notre interview, le grand malheur du patrimoine des Trente Glorieuses, c'est qu'il est malheureusement souvent détruit. Je pense au casino municipal de Royan qui était un des plus beaux bâtiments des années 50 qui a été réalisé dans la ville.
En tout cas, un décor de cinéma.
C'est un décor de cinéma. Un décor de cinéma à la Jacques Tati. On peut très bien y retourner mon oncle là demain et ça posera aucun souci.
Et vous, Mathieu, quels sont les lieux que vous aimez ici à Bordeaux puisque vous y êtes depuis 4 à 5 ans? Quels sont les lieux que vous sentez bien, qui font partie de votre patrimoine intime?
Qui font partie de mon patrimoine intime, c'est une bonne question. Ouais. Je suis plus sensible à l'architecture, effectivement, des années 50 et 60. La caserne des pompiers qu'on a évoquée en long, en large et en travers me plaît beaucoup. Un bâtiment un peu plus qui est un peu plus peut-être suspect, enfin pas suspect, mais qui peut amener des controverses, c'est la base sous-marine de Bordeaux, qui est un lieu moi que je trouve extrêmement fascinant. Et puis aussi le patrimoine qu'on trouve dans le quartier de Bacalan, qui à mon sens est un quartier qui est peu connu, dont on parle assez peu, mais on a des exemples d'architecture assez intéressants de la cité Claveau que j'évoquais tout à l'heure, où on a une sorte de cité-jardin qui a été conçue au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, qui est assez fantastique.
En tout cas, nous, sur France Bleu Gironde, on en parle assez régulièrement, de Bacalan, et puisque vous évoquez la caserne de la Benauge, il y a une période dans l'année où il y a une lune dans le ciel à la fin du jour, et ça donne des photographies, des images assez incroyables, parce que c'est une lune pleine à la tombée du jour entre chien et loup, donc c'est la lune avec cette caserne de la Benauge, je ne vous dirai pas à quelle période, c'est comme les cèpes, vous le dites oui. Pas, levez le nez. Mathieu Marsan, vous restez avec nous, on continue donc de feuilleter ensemble cette revue, les 30 glorieuse vue par le festin. C'est Place des Grands Hommes jusqu'à 13h. Mathieu Marsan est l'invité de France Bleu Gironde. Il est le rédacteur en chef adjoint de la revue Le Festin qui consacre son dernier numéro aux 30 glorieuses et à ce qui a été transformé dans notre environnement, dans notre vie et dans la vie de ceux et celles qui nous écoutent. Je pense que ça doit évoquer un certain nombre de souvenirs parmi ceux et celles qui nous écoutent. Donc il y a plein de choses, c'est un magazine très très riche. On ne pourra pas tout dire, tout raconter. Donc il y a une chose dont je voudrais qu'on parle, c'est de cette bordelaise dont on ignorait l'existence jusqu'à ce que le Musée des Arts Décoratifs lui consacre une partie d'une exposition. Il s'agit de Paul Marot. Paul Marot qui a contacté la revue, enfin la régie Renault, hein, donc, et qui a transformé la couleur des dauphines à l'époque.
Oui, c'est exactement ça. Paul Marot, elle est née en 1902 à Bordeaux avant de partir à Paris pour se former. Au début des années 50, Paul Marot, c'est une décoratrice intérieure qui est vraiment très très connue, qui est très renommée. Et lassée de voir les couleurs ternes des quatre chevaux dans la rue, elle écrit une lettre au responsable, au PDG de Renault, pour lui dire que ça ne va pas. Et le PDG lui répond, bah, écoutez, venez et je vous confie la réalisation des couleurs. Alors, tout d'abord des quatre chevaux, et puis du modèle emblématique que sera la Renault Dauphine. Et cette femme, Paul Marot, elle va révolutionner hein, l'automobile des années 50 et 60. Elle va introduire des gammes de couleurs très riches, très variées, et elle va surtout réussir à s'imposer dans un milieu d'hommes. Oui, c'est la seule femme dans un milieu d'hommes.
Oui. Alors c'est incroyable quand même cette aventure. Donc là vous avez des photos qui là aussi vont vous rappeler sans doute des souvenirs parce que ça ressemble à un album de photos de famille. Hein.
Oui, ça y ressemble beaucoup. C'est vrai qu'on a eu plaisir d'échanger avec les archives Renault et on avait un choix. On aurait pu faire un livre entier avec des photos d'archives qui sont vraiment magnifiques. Et c'est vrai que cette Paul Marot, elle a créé un métier hein, elle toute seule qui est celui de coloriste conseil. Aujourd'hui dans toutes les entreprises qui font de l'automobile, on a des départements entiers de coloristes. Et bien elle c'était la seule et c'était la première, la pionnière.
Intéressons-nous maintenant à la chronologie, parce que vous avez au milieu de la revue, vous proposez donc un panorama des 30 glorieuses en Nouvelle-Aquitaine qui commence en 1950 avec l'installation de la première usine d'assaut à Mérignac, puis ensuite les grands chantiers de la reconstruction et ainsi de suite. Donc il y a plein comme ça de pépites, de souvenirs, de tiroirs que vous ouvrez, des tiroirs de la mémoire, des choses qu'on a entendues évoquer en famille qui font partie de notre histoire collective.
Oui, c'est vrai que le parti pris de ce panorama, c'était d'avoir des grands événements qui vont parler au plus grand nombre, mais aussi la petite histoire de la région, des petits faits historiques, mais qui sont souvent connus de tous, en tout cas d'une grande partie. Donc on y retrouve aussi bien la visite de Nikita Khrouchtchev à Bordeaux.
Avec une photo incroyable. Hein.
Voilà, avec une photo incroyable. On est à Bordeaux, sur les cours, une berline avec un drapeau de l'URSS juste dessus, qui est escorté par des motards. Mais aussi, on a les épisodes de la destruction du quartier de Mériadec, qui est dans l'ancien quartier de Mériadec, quartier insalubre, qui est détruit sous Chaban Delmas pour réaliser le quartier que vous connaissez tous aujourd'hui. Mais aussi, on a souhaité s'intéresser à l'activité culturelle et les événements culturels. Je pense notamment au festival Sigma, qui a marqué la seconde moitié du XXe siècle à Bordeaux, qui était un festival d'art contemporain, donc qui a disparu aujourd'hui. Et on parle aussi de sport, on parle du titre
des
Girondins de Bordeaux en 1950, on parle de rugby.
De Georges Descrières aussi, hein, Arsène Lupin à la télévision, c'était un Bordelais. Donc c'est vraiment la grande histoire, et puis la toute petite histoire, l'anecdote, enfin vraiment tous ces souvenirs. Ça se lit, ça se feuillette comme un album photo de famille, hein, d'une certaine manière.
Oui, tout à fait. L'idée, c'est qu'on aille y picorer quelques dates, quelques éléments, qu'une photographie attire le regard et qu'on cherche à en savoir un peu plus.
Voilà, c'est donc dans la revue Le Festin, consacrée aux 30 Glorieuses. On se retrouve dans quelques instants avec vous, Mathieu Marsan. On va écouter Michel Cardoz nous parler d'une certaine manière de l'invention des coopératives de vin. Et puis, vous donnerez aussi à celles qui nous écoutent quelques idées à la veille de ces journées du patrimoine, peut-être pour sortir des sentiers battus, pour faire un pas de côté.